Matière à penser, René Friedman.
Matière à penser, une émission de France Culture en partenariat avec le quotidien du médecin. Et nous reprenons une série sur cinéma et médecine. Et nous aurons le plaisir donc de décliner plusieurs approches avec à chaque fois un critique de cinéma ou de l'œuvre et puis un professionnel pour discuter de la thématique. Aujourd'hui, nous allons tourner autour d'un nom célèbre, c'est Hippocrate, c'est le film, la série, et puis les questions que cela pose.
Bonjour, je peux avoir une blouse, s'il vous plaît?
Vous en avez pas une sans tache?
C'est pas des taches, ça, ça a été lavé, c'est des taches propres.
Là, t'as l'accueil, derrière, c'est le bureau des internes, c'est chez toi. 10 chambres, 18 patients.
18?
Ne vous inquiétez pas, c'est notre meilleur interne.
Attention, je vais piquer.
Alors, cette première semaine.
Je crois que je vais pas m'en assurer.
Voilà, sois pas trop sûr de toi. Tu commences, tu connais rien pour l'instant. Alors, quand tu sais pas, tu demandes.
Tu sais, j'ai remarqué un truc marrant. Si tu demandes à un patient de s'allonger sur le dos, eh ben il s'allonge sur le ventre. Alors que si tu précises pas et que tu dis juste « Bonjour monsieur, allongez-vous s'il vous plaît », eh ben, le mec s'allonge sur le dos direct.
Ouais, mais si tu tues un mec, qui c'est qui paye?
T'es tranquille toi, ton chef c'est ton père.
Je crois que t'as le droit à 5 décès par an.
Vous buviez combien par jour?
Bah, les 40.
40? Et comment on fait pour boire 40 bières par jour tout en travaillant?
Je tiens un bar.
Franchement, je suis pas fait pour ce métier, c'est pas possible.
C'est pas un métier, médecin. Un espace de malédiction.
Allongez-vous sur le dos, s'il vous plaît. Non, sur le ventre. Hein? Enfin, pas sur le ventre, mais sur le dos, de l'autre côté, quoi.
Voilà. Voilà, vous venez d'entendre la bande-annonce du film Hippocrate, qui, comme vous le savez sans doute, a évolué aussi dans une série. Et nous avons, pour discuter de ce film, deux messieurs, d'abord Monsieur Franck Nouchi, qui est médecin, qui est journaliste au Monde, qui a fait une carrière pendant de nombreuses années, mais il y en a encore beaucoup devant. Surtout comme directeur de cahier du cinéma d'un côté, et puis le Monde Festival, et puis je dirais tout un tas de positions dans ce grand journal. Il a écrit aussi Le Cerveau de Voltaire et Contre-attaque avec Philippe Solers. Merci d'être là. Le professeur Djilali Annane, qui est doyen de la faculté de médecine de Paris-Ouest, qu'on appelle maintenant Simone Veil Santé, ce qui est un hommage, bien sûr, à Simone Veil, et qui est vice-président de la conférence des doyens des facultés de médecine. Autrement dit, nous sommes au cœur de cette formation médicale, et puis plus que la formation médicale, des problèmes que nous avons aujourd'hui et qui sont importants dans l'organisation de la santé et dans les liens qu'il y a entre la population et la santé. Alors tout d'abord, je me tourne vers Franck Nouchi. Qu'est-ce qui vous a, puisque vous avez, j'ai vu que vous aviez fait déjà des commentaires sur cette production de Monsieur Lilti, qu'est-ce qui vous a plu dans ce film et dans cette série? Peut-être d'ailleurs les deux ne sont pas tout à fait identiques.
Alors peut-être deux mots d'abord sur Thomas Lilti, qui est un cinéaste qui, avant de se lancer dans la réalisation, était médecin. Je dis bien était médecin parce qu'il a arrêté d'exercer maintenant. Et il a un itinéraire assez singulier dans le cinéma français, même j'allais dire dans le cinéma tout court, puisqu'il a réalisé 3 films et une série consacrée à la médecine, à l'hôpital, à l'exercice de la médecine, à la formation des médecins. Donc je vous les cite rapidement. Donc il y a eu Hippocrate en 2014, Médecin de campagne en 2016 et Première année en 2018. Et il a ensuite éprouvé le besoin de réaliser une série à partir du film Hippocrate, qui raconte pas tout à fait la même histoire, mais qui met en scène les mêmes problématiques. Moi, ce qui m'a plu dans le travail de Thomas Lilti, j'allais dire dans ses 3 films et dans sa série, c'est que d'abord, il sait très bien de quoi il parle, et pour cause, puisqu'il a été médecin. Je trouve qu'il a une approche extrêmement humaine de ces sujets. Il y a quelque chose de très pédagogique dans ses films, et en particulier concernant la série, c'est une série extrêmement réussie. C'est-à-dire que d'un point de vue scénaristique, il a réussi à montrer que la médecine pouvait être un champ fictionnel tout à fait passionnant. Alors on le savait parce qu'il y a énormément de films qui tournent autour de la médecine, de l'exercice à l'hôpital. Les Américains sont des maîtres en la matière. Mais Thomas Lilti, à la française, j'allais dire, a réussi quelque chose d'absolument passionnant.
Et d'ailleurs, cette série se poursuit puisque la saison 1 est terminée. Il y a déjà 8 épisodes de 52 minutes, donc c'est déjà conséquent. Et la saison 2 est en cours de réalisation, je crois.
Absolument.
Donc on va effectivement aborder tous les problèmes de la formation qui, je me tourne vers Gilles Aliannan, notre doyen. Cette formation, vous avez œuvré d'ailleurs pour qu'il y ait une transformation de la formation des médecins.
En effet, on essaye de faire évoluer dans le bon sens, si je peux dire, la formation. Ça veut dire quoi dans le bon sens ? Ça veut dire de ramener le plus possible le contexte de la formation à l'exercice et à la pratique médicale future. Essayer d'avoir l'espace ou un écart le plus faible possible entre l'environnement dans lequel le patient ou l'environnement dans lequel le futur médecin va réaliser son apprentissage et ses conditions d'exercice. Et en ça, je trouve que le film Hippocrate, finalement, montre bien cet écart possible qui peut exister entre la formation et la réalité de l'exercice. C'est ce qu'il découvre dans sa première semaine d'arrivée à l'hôpital.
Le fait est, c'est, par exemple, c'est un peu étonnant qu'on lui laisse faire, enfin on lui demande de faire une ponction lombaire alors qu'il n'en a jamais fait et qu'il est tout seul. C'est juste le seul point. D'ailleurs, l'interne qui est plus âgé, qui est d'origine algérienne, dont on va discuter, puisque ça pose le problème relationnel entre justement les étudiants étrangers et, je dirais, ceux qui sont dans la filière. C'est lui qui sait, qui va lui montrer comment faire. Mais c'est un peu rattrapé au dernier moment. Hein. C'est-à-dire que de temps en temps, j'ai trouvé qu'il était un peu seul. Enfin, on le sent pas avec un référent. Or, théoriquement, il y a quand même toujours au-dessus un appel. Non, Franck, vous n'êtes pas d'accord ?
Oui, théoriquement, oui. Mais est-ce qu'en pratique, et on le sait tous les trois, est-ce qu'en pratique, c'est toujours le cas ? Moi, je me souviens, quand je faisais mes études de médecine, alors que j'étais externe, il m'est arrivé de faire des ponctions lombaires. Donc, on peut tout à fait considérer...
Non, mais je suis d'accord avec vous, parce que moi aussi, on a, mais même un peu encore avant vous, je me suis retrouvé, pour donner un exemple, j'étais externe, faisant fonction d'interne, c'est-à-dire tout seul, pour tout l'hôpital Tenon, tout l'hôpital Tenon, donc je passe les détails de ce que j'ai vu. Oui, mais c'était il y a 40 ans.
Oui, mais est-ce que ça s'est arrangé depuis ?
Bah, je crois, parce que quand même, il y a une augmentation, et là, je veux dire, du nombre de médecins, et, je veux dire, les gardes sont quand même, puisque ça se passe souvent en garde, la solitude, et ça s'est bien montré, il y a quand même une équipe avec sur place, par exemple, avant... pour l'obstétrique, je veux dire, on était les chefs de garde n'étaient pas sur place. Mmh. Ils allaient rentrer chez eux, ils allaient au restaurant. On les appelait au dernier moment. Ça a quand même changé, il y a toujours une équipe opérationnelle qui est là.
Oui, moi je crois aussi qu'il faut quelque part il faut rassurer aussi un peu les gens qui nous écoutent, c'est-à-dire que c'est quand même des situations caricaturales dans lesquelles un jeune médecin, pour la première fois, va pratiquer un geste sans être encadré. Je crois que ces situations-là sont devenues, à mon sens, rarissimes aujourd'hui. Elles appellent pour moi, pour amener tout ça un peu à l'actualité, la réflexion que les doyens de médecine portons, et nous voulons impérativement à ce que les premiers gestes ne soient plus faits sur les patients, mais que les premiers gestes, comme pour les pilotes d'avion, soient faits en simulation. Et lorsque l'on a en simulation une maîtrise très acceptable, pour ne pas dire parfaite du geste, alors on pourra passer chez le patient.
Ces plateformes de simulation s'installent dans toutes les régions et sont effectivement indispensables. D'ailleurs, il y a eu aussi des problèmes récemment sur le fait qu'on faisait des examens intimes, enfin des touchers vaginaux, par exemple, sur des patientes qui n'en avaient pas forcément demandé le consentement, qui étaient endormies, des choses comme ça. Et c'est vrai que toute cette approche sur simulation permet d'éviter ce type de problème. Parce qu'on voit bien que les problèmes de pratique et les problèmes éthiques relationnels sont vraiment à l'ordre du jour. Il y a une volonté des patients d'être au courant, d'être consentants, d'avoir donné leur accord, et c'est ça qui est en train, peut-être, entre guillemets, de se transformer. Franck Nucci.
Pour en revenir au film, puisque c'est un petit peu le rôle que vous m'avez imparti, je trouve, puisque vous parlez d'éthique, que le film pose assez bien un certain nombre de problèmes d'éthique auxquels sont confrontés les médecins de manière quotidienne. Donc il y a cette histoire de la ponction lombaire, quand est-ce qu'on est habilité à faire une ponction lombaire sur un vrai patient. Il y a une autre histoire qui est racontée dans le film, c'est un monsieur à l'hôpital qui ressent une douleur thoracique. On est en pleine nuit, le jeune interne qui est le héros du film, qui est interprété par Vincent Lacoste, devrait demander à ce qu'on lui fasse un électrocardiogramme à ce monsieur. Et puis finalement, les infirmières, parce qu'elles ont un travail considérable à faire par ailleurs, parce qu'elles sont fatiguées aussi, parce qu'il y a une surcharge de travail considérable, ne font pas cet électrocardiogramme et on découvre ce monsieur le lendemain matin mort. Et ça pose tout un tas de questions autour de la question de l'erreur médicale, etc. Il y a un troisième sujet qui est abordé dans le film, c'est une dame qui est elle aussi hospitalisée, une très vieille dame qui a une insuffisance respiratoire et qui en gros en a marre de vivre et qui aimerait bien qu'on abrège ses souffrances. Là aussi, problème considérable pour les médecins, le droit à mourir dans la dignité. Et puis il y a un quatrième sujet qui est soulevé également dans le film, c'est les conditions de travail à l'hôpital, la surcharge de travail, le fait qu'on manque d'infirmières, le fait qu'on peut manquer d'aides-soignantes également, et ça aboutit dans le film à l'émergence d'un mouvement social qui est, je trouve, lui aussi assez bien décrit dans le film.
Et qui est très d'actualité, c'est le moins qu'on puisse dire, vu la grève des urgences dans laquelle on discutera dans un instant. Mais restons sur l'éthique que vous avez abordée, Franck Nucci. Est-ce que vous trouvez, Gilali Hanan, en tant que doyen, que l'accès à l'éthique et à la réflexion commune, je dirais, par rapport à ces problèmes-là, du début de la vie, de fin de la vie, des choix de thérapeutique, est suffisamment menée ou est-ce qu'elle reste encore à faire ?
C'est jamais suffisant en la matière. On peut pas non plus dire que c'est négligé. Autrement dit, les enseignements théoriques existent dans la plupart des facultés de médecine et des facultés de santé en France comme dans de nombreux pays. Que ce soit dans le cadre de la formation initiale ou que ce soit dans le cadre de la formation continue. Mais si on revient à la formation initiale et notamment à celle des internes, par exemple, ce qui compte, c'est moins la formation théorique que la formation auprès du patient. Et donc cette formation auprès du patient, elle nécessite forcément du temps. Elle nécessite du temps de la part des seniors, des médecins plus âgés, plus expérimentés, mais aussi de la part des autres soignants du service. Et c'est bien cet encadrement-là, au plus près des patients, qui fait aujourd'hui défaut. Et comme je pense c'est bien illustré dans le film, 5 ans après le film, on peut dire que c'est toujours la même situation de finalement manque de temps à consacrer à l'empathie, pour utiliser un mot un peu
généraliste. Comment faire l'annonce d'une maladie grave ? Ça s'apprend pas comme ça. Si on n'a pas fait de jeu de rôle et de discussion, et de mimer d'ailleurs cette situation, hein, ou bien de comment est-ce qu'on annonce à des parents dont l'enfant vient de décéder qu'il y a peut-être un don d'organe à la clé. Voilà, c'est des choses qui effectivement méritent du temps et peut-être une réflexion plus large. J'ai envie de dire, c'est vrai que la médecine telle que nous l'avons connue, qui nous, Franck Nucci, toi et moi, je dirais, était très centrée sur la science, ce qui était nécessaire, hein, c'est-à-dire de mieux comprendre les mécanismes. Mais on a un manque que l'on ressent des humanités, comme on dit. Alors là, la réforme des études médicales là, qui est en cours avec la suppression du concours et la possibilité de première année, hein, la suppression du concours de première année, ce qu'on appelle le PACES, qui était vraiment la barrière. Entre parenthèses, il faut pas croire qu'il y aura pas d'autres barrières un peu plus tard, parce qu'on peut pas accepter tout le monde. Mais est-ce que c'est la possibilité pour des gens qui veulent faire médecine d'arriver par d'autres biais ? J'entends plus les humanités, plus le droit, plus la philo, enfin, je dirais.
Alors, c'est une vraie question, celle-là. C'est-à-dire que il n'y a pas de doute sur le fait qu'il faut diversifier les compétences que les médecins vont acquérir. Il faut les diversifier. Elles ne peuvent pas être que techniques. Elles doivent effectivement davantage être centrées sur les sciences humaines. Est-ce que c'est en diversifiant les étudiants qui vont entrer dans les études et les voies d'entrée, et ensuite qui vont pendant 10 ans avoir une formation standardisée, homogénéisée et très centrée sur les sciences dures, Donc c'est le choix qui a finalement plus ou moins été opéré dans la réforme, dans la loi de santé 2022, où l'autre approche qui avait été défendue par les doyens était de ne pas forcément bouleverser les portes d'entrée dans les études médicales,
mais,
au contraire, de profondément changer la formation des futurs médecins et de l'ouvrir davantage aux sciences dites molles.
Franck Nouchi.
Oui, je crois que vous posez un problème très important qui nous place devant une sorte de contradiction fondamentale. À la fois, on ressent ce besoin d'humanité, comme vous le dites, René. C'est-à-dire que effectivement, la formation des médecins, hier, celle que nous avons connue, celle d'aujourd'hui, fait une grande place aux sciences dites dures. Il faudrait même s'interroger, à mon avis, sur quelles sciences. Il y a science et science, il y a science dure et science dure. La contradiction, elle vient du fait qu'il faut sans doute plus d'humanité, mais en même temps, on est devant une véritable révolution, qu'on pourrait appeler celle de l'intelligence artificielle, celle du patient numérique, celle de la médecine numérique, qui oblige elle aussi les étudiants en médecine, et même les médecins, dans le cadre de la formation médicale continue, à apprendre ou à réapprendre un certain nombre de notions fondamentales qui vont leur permettre d'appréhender cette médecine de demain qui va révolutionner la médecine.
Mais est-ce que, justement, l'intelligence artificielle, est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend à utiliser pour un médecin dans les études de médecine aujourd'hui ? Est-ce qu'ils vont sortir avec cette formation-là ?
Alors, pas du tout. Aujourd'hui, pas du tout. Et c'est pour cause. Malheureusement, un peu comme les ouvrages, contrairement aux outils de communication numérique, ont en règle générale 5 à 10 ans de retard par rapport à l'état de l'art en médecine. Bah, à peu près de la même façon, les études de médecine et les programmes de formation des études de médecine ont un train de retard. C'est clair, les doyens en ont parfaitement conscience, et ça soulève la question de l'organisation nationale des études de médecine. Et alors qu'on devrait avoir finalement des études de médecine qui certes reposent sur un socle commun national, mais qui laissent davantage aux universités, en fonction de leur écosystème local, la possibilité de diversifier la nature de la formation médicale. Et par exemple, pour effectivement former davantage les médecins au numérique et aux outils numériques, ou à l'inverse, de former davantage les médecins parce que l'écosystème local d'une université va y être favorable à d'autres formes d'exercice de la médecine que la médecine basée sur les robots, par exemple, ou les autres outils numériques.
Absolument. Alors, la loi de bioéthique qui est actuellement en discussion au Parlement aborde un tout petit peu ces sujets. Je voudrais insister sur une notion qui, à mon avis, est fondamentale, qui est la notion de confiance. La notion de confiance entre le médecin et le patient. Cette émergence de la médecine numérique, cette apparition du patient numérique, le dossier médical partagé, etc., etc., pose tout un tas de problèmes d'ordre éthique, de problèmes d'information dus au patient. Et finalement, c'est la confiance elle-même entre le patient et le médecin qui se joue aussi au travers de ces nouvelles technologies qui sont en train d'envahir, pour le meilleur et pour le pire, la médecine.
Avec également le risque, paradoxalement, de favoriser l'éloignement du patient et du soignant de son patient.
De diminuer le contact.
Ben oui, que ce soit la télémédecine, que ce soit la robotique, qui a écarté les mains du chirurgien du corps du patient.
Donc cette réforme des études médicales avec la suppression donc de la première année, donc il faudra que Thomas Lilti refasse un film sur cette nouvelle donne, aboutit quand même à une sélection, mais qui va se faire plus tard, parce que sélection il y aura. Vous pouvez pas, dans les facultés, accepter tout le monde.
Absolument. Très clairement, la loi n'a pas supprimé... c'est pas open bar, pardonnez-moi l'expression. La loi n'a pas supprimé le numerus clausus. Elle le présente sous un angle différent. C'est-à-dire, au lieu qu'il soit, comme c'était le cas avant le vote de la loi, décidé de façon quasi unilatérale par les ministères de la Santé, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, aujourd'hui, il y a une première étape qui est celle d'évaluer les capacités de formation des facultés de médecine, et en fonction de ces capacités de formation, eh bien l'État autorisera un certain nombre d'étudiants par université à pouvoir intégrer les études de médecine.
Et comment on va évaluer les capacités de formation ?
Toute la difficulté est là aujourd'hui, parce qu'il n'y a malheureusement pas de modèle standard, et que par conséquent, les uns et les autres doyens, nous sommes en train d'essuyer les plâtres, c'est-à-dire qu'on essaye de construire, un peu dans l'urgence, il faut l'avouer, hein, on essaie de construire ces nouvelles voies d'accès, ces nouveaux sas d'entrée dans les études de médecine, en essayant effectivement de faire en sorte... Et ça, c'est absolument fondamental. Moi, s'il y a un message sur la réforme de santé que j'ai envie de passer, c'est par pitié qu'elle n'allonge pas les études de médecine.
Ah bah, c'est déjà
qu'elle ne se traduise pas par un allongement des études
de médecine. C'est déjà aujourd'hui 3 et 5, 6. Hein.
Parce que...
Ça fait 11.
Pourquoi je dis ça ? Parce que on va pas demain demander à ce que les compétences des médecins qui prennent en charge les patients soient diminuées. Donc, autrement dit, personne ne remet en cause aujourd'hui que ce qui est enseigné aux médecins aboutit aujourd'hui à des médecins dont les compétences permettent quand même des soins de qualité en France. Donc, il faudra atteindre au minimum ce niveau de compétences. Et comme on va, d'une certaine façon, par la diversification des portes d'entrée, retarder le moment où on commence à enseigner ses connaissances et ses compétences, eh bien, on a le risque qu'il faudra essayer à tout prix d'éviter de voir les études se prolonger.
Le petit Percombe s'en va chez le docteur. Ah docteur, je suis bien malade. J'ai comment vous dire l'estomac gazouilleur comme un vieux siphon de limonade. Enfin j'ai quelque chose là qui ne passe pas, quelque chose qui ne passe pas. Le docteur fait, mais dites-moi, n'est-ce pas un projet de loi ? Ah, ah. Voyons, reprit le docteur, avez-vous un moment de vous asseoir, prenez la peine. Ça ne sera pas long pour voir ce qu'il y a dedans, je vais vous ouvrir l'abdomen. Et fille combattant des morbleus, il me semble, docteur, que ça va déjà mieux. Puis vous savez, je suis pas curieux, ne vous dérangez pas pour si peu. Laissez, dit le docteur, ne vous occupez donc pas, je fais ça comme on vide un litre. Puis je suis en train ce matin, j'ai déjà ouvert plusieurs douzaines d'huîtres. N'ayez pas peur, vous ne sentirez absolument rien, je vais vous boucher le nez. Tout ça sera proprement fait, et plus vite qu'un porte-monnaie. Là-dessus, il opère, il regarde et il dit, jusqu'ici, vous n'avez pas de chance de maladie de foie, mais quant à la phtisie, c'est couru galoper d'avance. Dans vos bronches, oh, quel vent du nord, ça fait courant d'air avec le corridor. Vos poumons semblent respirer autre chose que la sainteté. Ah, voici le cœur, dame, il n'est pas très grand, je pourrais le mettre dans ma poche. Tiens, vous le portez, ça c'est très élégant, crânement sur l'oreillette gauche. Il semble atteint, en vérité, d'une part trop grande sensibilité. Ça doit joliment vous gêner, je crois bien qu'il faudra l'enlever. Oh, ça c'est curieux, vous vous êtes foulé, la rate, mais le diable m'emporte. Comment avez-vous donc pu vous dévisser tout seul la crosse de la horte ? Ah, vous êtes un fameux lapin, parbleu, je le vois bien de l'autre côté du Rhin. Vous devez être fort, mon garçon, mais là, très fort sur la boisson. Tout ça ne sera rien, dit le docteur, ayant remis toutes ces choses à leur place. Ah, voyons la langue, pas trop sale. Aujourd'hui, ne buvez que du clos Wallace. Au fait, revenez demain en passant, que je vous ouvre le crâne, il y a peut-être quelque chose dedans. Mais nettoyez-le, grattez-le, je ne veux pas y trouver un cheveu.
France Culture, matière à penser, René Friedman.
Donc nous avons abordé autour de ce film les thèmes sous-jacents, enfin qui sont tout à fait présents, de la formation médicale. On ne parle pas évidemment de l'émotion, des relations entre les gens, sauf que si je voulais demander à Gillianan, comment se fait-il que nous avons tellement de mal à intégrer les médecins qui viennent des pays étrangers, qui sont hors Europe, qui sont là et dont on a bien besoin d'ailleurs? Dans la situation actuelle, force est de constater qu'il y a quand même des pays qui réussissent beaucoup mieux à les attirer, alors que nous-mêmes, nous pataugeons.
Alors, d'abord, je crois qu'on les intègre mal sur le plan administratif, parce que sur le plan humain dans les services, leur intégration dans les équipes soignantes sont quasi rapide,
oui, ça, ça
et ne pose vraiment
sûr,
aucun problème.
Au contraire.
En revanche, effectivement, malheureusement, on persiste à avoir un dispositif en France qui, d'une certaine façon, prévient ou ralentit la capacité à attirer les jeunes talents, puisque en pratique, la seule reconnaissance des diplômes médicaux se fait au travers de l'appartenance au pays de l'Union européenne, et plus précisément de l'espace de Schengen. D'ailleurs, on peut se poser la question de savoir si nos collègues britanniques, avec le Brexit, resteront aussi avec la reconnaissance de diplômes. Et donc, au lieu, pardonnez-moi d'être long, mais c'est important, au lieu de fonder l'autorisation d'exercice sur la qualité des études suivies, eh bien, on les fonde plutôt sur l'endroit où on a conduit ces études. Et à l'évidence, ce n'est pas un gage de qualité.
Ça va être un problème. Franck Nouchi, vous vouliez...
Oui, je voulais en revenir au film et peut-être même dire un mot de la série à propos de la question que vous venez de poser. Donc, dans le film, il met en scène un jeune interne qui est effectivement le fils du patron du service. Cet interne s'appelle Benjamin. Il est interprété par Vincent Lacoste. Comme on l'a dit tout à l'heure, on lui demande de faire une ponction lombaire. Il sait pas la faire. Et heureusement que passe par là un faisant fonction d'interne algérien qui s'appelle Abdel, qui est interprété par Reda Kateb. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le film, on parlait tout à l'heure d'intégration des médecins étrangers. L'intégration n'est pas parfaite. Abdel est quand même, d'une certaine manière, un peu mis de côté. C'est pas un médecin tout à fait comme les autres. Il n'est pas exactement au même niveau. Il a moins d'argent pour vivre. Il vit dans une petite chambre à l'hôpital. La vie est dure pour lui, alors que pour les autres, on le voit bien dans toutes les scènes qui se situent dans la salle de garde. Pour tous les autres... la vie semble quand même plus gaie, plus facile. Il est solitaire, il vit un petit peu à l'écart, et pourtant, et c'est en tout cas comme ça que le met en scène Thomas Lilti, il est très compétent. Dans la série, c'est pas exactement la même histoire, c'est un médecin albanais qui au départ anatomopathologique, c'est-à-dire qui s'occupe des cadavres en gros, et qui par un subterfuge de scénario, se retrouve lui aussi à venir en aide à deux jeunes internes totalement inexpérimentés. Et là encore, il est solitaire, il est à part. En tout cas, dans les deux, dans le film et dans la série, l'intégration n'est pas parfaite, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Je pense que c'est étroitement lié au statut qu'on leur donne en réalité. Et c'est ça qui est surtout et qui fait la différence. Ils n'ont pas la même rémunération, ils n'ont pas le même titre.
Pour le même travail.
Pour le même travail.
Des fois plus, d'ailleurs.
Et donc, c'est bien une question statutaire. Donc, c'est bien la façon dont l'administration accueille ces jeunes médecins étrangers.
Donc ça, c'est un des points clés, parce que je trouve qu'on n'arrivera pas à se développer, surtout qu'on manque de médecins tout de suite, à l'instant même, et pas tellement dans les 10 ans de la formation. D'ailleurs, à ce sujet, bon, on a beaucoup discuté des territoires de santé. Dans la loi 2022, il y a un projet donc territorial, mais moi, je le sens pas du tout. Je l'ai dit déjà plusieurs fois, parce que je ne vois pas du tout la réunion de toutes les formes de médecine sur un territoire donné pour une population donnée, de l'hôpital au dispensaire, aux médecins salariés, aux médecins privés, aux cliniques, qui vont recevoir le patient, lequel va faire son chemin. Je dirais, dans toutes ces différentes structures, selon ce dont il a besoin. S'il a besoin d'un kinésithérapeute, dans la suite de l'intervention, il le fera, je dirais, dans la ville. Donc, quand vous parliez tout à l'heure, Jelianan, de l'écosystème des facultés qui vont décider de former tant de médecins et de cette façon, est-ce qu'il ne peut pas le faire à partir d'une analyse de son territoire? Parce que quels sont les besoins du territoire? Et à ce moment-là, peut-être que pendant quelques années, il faudra forcer sur telle ou telle spécialité ou savoir-faire ou modalité d'exercice, alors que d'autres, il faudra peut-être alterner.
Absolument. Moi, je pense très sincèrement que on va pas assez loin dans la réforme des territoires. C'est-à-dire que nos territoires sont très divers. Aucun ne ressemble à l'autre et les besoins sont extrêmement hétérogènes d'un territoire à l'autre et à l'intérieur d'un même territoire. Pas pareil d'exercer la médecine en zone montagneuse ou rurale que en zone périurbaine, à Trappes par exemple, pas très loin de ma faculté de médecine. Et donc vouloir trouver un système qui correspond à l'ensemble de ces territoires très différents est probablement voué à l'échec. Et donc nous pensons, les doyens, qu'il est extrêmement important, nous qui sommes finalement dans les territoires et qui échangeons régulièrement avec les acteurs qui vivent sur le territoire, pensons que la formation médicale, la redistribution et la répartition des médecins sur le territoire doit davantage être déléguée au territoire. On doit aller plus loin dans le transfert de responsabilités vers les régions et vers les départements.
Ah oui, je pense tout à fait la même chose. La région aujourd'hui, qui est peut-être un peu monstrueuse d'ailleurs en termes de taille, mais qui pourrait se subdiviser, mais n'a pas la compétence de la santé.
Absolument.
Et ça, c'est peut-être...
Oui, je voulais juste signaler à nos auditeurs que Médecins de campagne, le film de Thomas Dilty, pose ce problème. C'est-à-dire pose le problème de la spécificité de l'exercice médical à la campagne, en médecine rurale. Et on voit arriver une jeune femme qui est médecin, qui est interprétée par Marianne Denicourt, qui doit aider un médecin de campagne, qui est interprété par François Cluzet, et on voit bien à quel point elle n'a pas été formée à ça, à quel point elle éprouve les plus grandes difficultés à exercer dans des zones comme celle-là, et ça renvoie tout à fait à ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire quel type de formation spécifique en fonction d'un mode d'exercice spécifique.
Alors, le mode d'exercice, justement, c'est vrai qu'on dit que dans la formation médicale, il n'y a pas suffisamment de stages qui sont faits chez les médecins généralistes, qui ont été un peu délaissés ces dernières années, mais que aussi ces stages ne se font pas parce que les médecins généralistes n'ont pas la disponibilité d'accueillir je dirais les jeunes stagiaires, et on manque de maîtres de stage, en un mot, c'est bien ça.
C'est ça, et c'est très intéressant de voir, René Friedman, que à l'hôpital, même si le taux d'encadrement est insuffisant, eh bien c'est dilué, parce qu'on est dans un ensemble, il y a des soignants, et même s'il y a un défaut d'encadrement, ça passe relativement inaperçu. Mais à l'évidence, dans un cabinet de ville ou à la campagne, le médecin est tout seul, avec éventuellement son stagiaire. Donc l'encadrement, il ne peut pas être dilué. Il est forcément repose à temps plein sur le praticien. Et donc la quadrature du cercle réside dans le fait que dans ces territoires à faible densité médicale, les médecins qui exercent une médecine absolument remarquable sont confrontés à une charge de travail considérable qui empêche tout encadrement d'étudiants. Et donc, on est également dans l'incapacité de pouvoir, même s'ils le souhaitent, devenir maître de stage, eh bien, le défaut de temps lié à leur charge de travail quotidienne ne leur permet pas d'encadrer les étudiants dans ces territoires. Donc, on ne peut pas les former dans ces territoires. Et par conséquent, quand ils sont diplômés, eh bien, ils en ont peur de ces territoires, parce qu'ils ne connaissent pas ce genre d'exercice. Et donc, ils sont très réticents à y aller.
Autre thématique qui revient, qui n'est pas véritablement dans le film, mais qui revient quand même dans notre préoccupation, la désertification justement de certains territoires. Est-ce que l'un ou l'autre, vous avez une réflexion là-dessus, Gilles Alianan?
Alors, la désertification médicale, c'est pas un problème de nombre. Ce n'est absolument pas un problème de nombre de médecins. Je pense que le nombre de médecins formés en France est tout à fait raisonnable comparativement à d'autres pays de l'OCDE. Ça n'est pas un problème non plus de délégation de tâches. Je ne suis absolument pas du tout persuadé que les infirmières en pratique avancée ou les délégations de tâches à d'autres soignants puissent résoudre le problème d'une offre médicale insuffisante dans certains territoires. Je crois que la solution passera principalement par la révolution numérique. Et il est clair que moi j'adore l'exemple récent pris par les pouvoirs publics finlandais, qui sont confrontés aussi à des problèmes d'écart entre l'offre de soins et les habitants, puisque la distance moyenne est de 630 km entre les habitants et les centres de soins. Ben, les pouvoirs publics ont ouvert un hôpital national numérique. C'est-à-dire a ouvert le concept qu'on peut, de son domicile, consulter directement dans cet hôpital numérique et grâce aux outils numériques, aux caméras et autres dispositifs qui existent aujourd'hui, qui se développent un peu partout, ben on peut permettre effectivement d'avoir un examen clinique tout à fait intéressant. Et la limite à ça pour l'instant, encore une fois, c'est qu'on ne forme pas les futurs médecins à ce type d'exercice. Donc, je ne sais pas comment on pourra le mettre en place, en pratique.
Franck Nouchi.
Oui, c'est un point un petit peu périphérique, mais en vous écoutant, ça m'y fait penser. Dans la série, à un moment, dans la série Hippocrate, il y a tellement peu de médecins à l'hôpital, parce qu'il y a une histoire de maladie épidémique, de contagion et de mise en quarantaine, qu'on fait appel à un vieux médecin de ville qui a pris sa retraite, qui est un médecin senior, et qui vient aider ces jeunes internes qui sont en grande difficulté. Ce vieux médecin, qui est interprété par Jackie Berroyer, apporte son vieux savoir. La médecine d'hier fondée beaucoup sur la clinique, sur la sémiologie, sur l'écoute du patient, etc. En parlant de désertification, il y a quelques expériences aussi de retour à la médecine de médecins très expérimentés qui avaient pris leur retraite et à qui on laisse une place parfois, dans certaines maisons de santé par exemple. Ils reviennent à la fois pour former de jeunes confrères et pour tout simplement prêter la main à des structures qui parfois sans eux auraient du mal à tourner. C'est un point un petit peu périphérique, mais c'est important. Les anciens, ils peuvent aussi apporter quelque chose.
Bah oui, je suis bien placé pour le savoir. C'est-à-dire que
j'ai vous le dire.
Non, mais d'avoir la possibilité d'être accueilli dans un système de santé où vous pouvez apporter votre savoir, enfin penser que vous le faites, effectivement est indispensable. Mais aujourd'hui, dans les grands centres hospitaliers comme l'assistance publique, à partir d'un certain âge, on vous dit au revoir et merci, alors que il y a des possibilités justement de liens qu'on pourrait trouver et développer. Il n'en reste pas moins que sur votre interprétation de la désertification, peut-être compensée par le numérique. On pourrait aussi penser que les différents modes d'exercice, c'est-à-dire une partie hospitalière, une partie en cabinet de ville ou en dispensaire ou en maison de santé, permettrait aussi à des médecins de bouger. C'est-à-dire d'avoir la responsabilité d'être nommé médecin, finalement, quel que soit le mode d'exercice, sur un territoire donné. La responsabilité n'est pas du bâtiment où on est ou du cabinet où on est, mais on essaye d'organiser et de donner des forces, peut-être d'aller une journée, deux journées, d'un tel endroit. Parce que la présence humaine, en même temps, c'est un peu contradictoire avec ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que si on informatise, on est à distance. Donc oui, on peut le faire quand on se connaît. Quand le médecin connaît le patient et vice-versa, on peut sauter une consultation ou deux consultations, je trouve que là, ça rentre. Mais sinon, c'est un peu difficile.
Oui, c'est vrai, mais Il faut bien comprendre que les outils numériques vont permettre, parce que finalement, de quoi se plaignent principalement les citoyens et les personnes qui sont dans ces zones à faible densité médicale? Ils se plaignent de l'accès aux soins. C'est-à-dire que on a une crainte, on est angoissé parce que on a un problème. Et on n'en sait pas plus. Et pour pouvoir avoir plus d'informations et consulter un médecin, avoir des premières informations et au moins être éventuellement rassuré, eh bien la liste d'attente et les délais sont trop longs dans certains endroits. C'est là où le numérique peut aider, parce qu'il peut apporter une première réponse qui ne sera pas forcément définitive, mais qui pourra être une réponse d'attente et qui pourra permettre effectivement de réduire l'angoisse d'un certain nombre de patients, de les éviter de prendre leur voiture pour faire 150 km pour se précipiter aux urgences du CHU qui se trouve à 1h30 de route, alors que s'ils avaient eu une réponse à leur interrogation initiale, eh bien ça leur aurait permis probablement d'attendre l'accès à la consultation. Quant à l'exercice partagé, la problématique de l'exercice partagé, c'est qu'il faut du temps pour avoir de l'exercice partagé. Quand le médecin généraliste fait 60 consultations par jour dans son territoire, qu'il n'est plus capable de prendre de nouveaux patients parce qu'il est déjà au maximum de ses capacités de soins, comment peut-il dégager du temps pour aller pratiquer dans un hôpital périphérique?
Franck Nouchi.
Oui, je voulais insister sur un point dont on n'a pas encore parlé, qui est évoqué assez longuement à la fin du film Hippocrate, qui est tout ce qui concerne l'économie de la santé, les restrictions budgétaires, les politiques d'austérité à l'hôpital. Est-ce que la santé a un coût ? je pense qu'il faudrait un débat entier pour qu'on puisse discuter de ces sujets qui sont évoqués dans le film, qui sont des sujets aujourd'hui absolument considérables. La manière dont on gère un hôpital, on a beaucoup dit qu'un hôpital devait être géré comme une entreprise, j'en suis absolument pas persuadé.
C'est le moins qu'on puisse dire. On y revient quand même.
On y revient, mais heureusement, mais on a perdu beaucoup de temps. Je voulais juste insister sur ce point.
Mais bien sûr. Et d'ailleurs, on voit bien, et vous l'avez signalé tout à l'heure, Franck Nouchi, les mouvements de grève existent. Et on a tous connu des infirmiers, des blouses blanches, quel qu'elle soit le stade, avec en grève, mais continuant à faire le travail. Et là, aujourd'hui, vous avez évoqué tout à l'heure, Djeli Annane, les urgences. On est quand même confronté à un problème dont on ne voit pas très bien la solution, à moins que vous ayez, parmi les doyens, réfléchi à ce problème.
Oui, on a réfléchi, parce qu'un certain nombre de doyens sont eux-mêmes urgentistes, donc on a effectivement réfléchi à cette question. Il n'y a pas de remède miracle, il faut être clair, mais il y a un certain nombre de mesures qui peuvent avoir du sens. Par exemple, il faut savoir que budgétairement, puisqu'on parlait d'économie de santé, pour un directeur d'hôpital, c'est très intéressant d'avoir un surnombre de patients au lit porte aux urgences, puisque pour les mêmes moyens, l'activité est multipliée par 2 ou 2,5 et donc dans certains hôpitaux, ça représente quelques millions de recettes supplémentaires pour un hôpital. Donc il y a dans les propositions faites par les doyens, par exemple, celle de proposer qu'il y ait un bonus-malus en fonction du surencombrement des urgences. Autrement dit, que si on a un taux d'occupation des lits portes, des lits aux urgences, eh bien, l'hôpital soit pénalisé. À l'inverse, si il arrive à gérer ses flux pour empêcher cet encombrement, il aurait un bonus. Aujourd'hui, c'est le contraire. Il faut bien se rendre compte que c'est plus avantageux pour un hôpital sur le plan budgétaire d'avoir une surpopulation aux urgences.
Mais est-ce qu'il y a des possibilités de lits d'aval? Puisque tout le monde se plaint qu'on ne sait pas où les mettre, les patients.
Les lits d'aval, il y en a insuffisamment. C'est sûr qu'il y a eu une réduction considérable du nombre de lits cette dernière décennie en France. Et là aussi, les doyens, nous avons appelé à ce qu'il y ait un moratoire et à ce qu'on suspende la diminution des lits. Par exemple, le COPERMO, ce fameux comité interministériel qui se réunit pour décider si on peut rénover tel ou tel hôpital. Eh bien, la règle d'or, c'est qu'il faut faire de l'efficience, donc réduire le volume de lits. Ce que nous proposons, c'est que les lits d'aval des urgences soient exclus de cette efficience, du calcul de cette efficience, de façon à ce que, lorsqu'on rénove un hôpital, eh bien, on n'aboutit pas à diminuer, paradoxalement, les capacités d'accueil en aval des urgences.
Comme vous le voyez, sur ce thème, à partir du film Hippocrate ou de la série Hippocrate, grâce à vous, à Franck Nouchi et Djeli Annane, nous abordons les vrais problèmes de société sur lesquels il faudra bien entendu revenir. On n'a pas le temps on brosse un peu. Mais peut-être on peut insister sur le fait que ce film et cette série nous permettent d'aborder les véritables problèmes de société tout en étant ludique. C'est-à-dire qu'il y a de l'émotion, il y a de la rencontre, enfin ça vit énormément, et nous qui sommes médecins pouvons dire que effectivement Tonalilti a su rendre, c'est pas uniquement parce qu'il est médecin, c'est parce qu'il a su rendre, je dirais, tous ces conflits intérieurs, tous ces épanchements sentimentaux qui font partie de la vie, et particulièrement de la vie du médecin. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Elle a été réalisée grâce à Catherine Donnet, Sandrine Chaperon, Gilles Blanchard, Justine Wilde et Nicolas de Pargraff. Donc nous sommes dans cette série Cinéma et Médecine. Nous nous retrouvons demain pour ces garçons qui venaient du Brésil. Nous allons parler du clonage, science-fiction, sens réel. À demain.